Un très bon milieu de semaine à vous tous, chers amis. J'espère que vous allez bien. On parle en première heure d'émission de harcèlement psychologique au travail. Vous savez que c'est une plaie, ça, le harcèlement psychologique au travail. Puis là, on a un cas bien précis. En fait, on en a au moins un, puis il y en a d'autres, vous allez voir au cours de la prochaine heure, qui vont se rajouter, sans parler de vos exemples à vous, parce que je suis sûre que vous en avez vécu, vous aussi, du harcèlement psychologique au travail. En fait, en discutant, on se rend compte que on en a tous un peu vécu. C'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui est véritablement du harcèlement psychologique. On va vous aider à bien mettre le doigt là-dessus. Mais surtout, on va essayer de s'aider puis de voir pourquoi est-ce qu'on tolère aussi longtemps ce genre de pratique un peu trop répandue dans les milieux de travail. Pourquoi est-ce qu'on tolère aussi longtemps des gens qui harcèlent, qui dénigrent, qui en viennent parfois à de la violence verbale, puis dans des cas extrêmes, à de la violence physique. On a vu ça des fois dans des bureaux ou dans certains secteurs de travail. Et là, le cas dont on parle dans l'actualité, c'est celui de la ministre démissionnaire, Marie-Ève Proulx, qui donc ne sera plus ministre du développement économique, mais qui garde quand même son poste de député. Et pourquoi on parle entre autres de ce cas? C'est que, vous avez vu, hein, il a fallu des mois et des mois de tergiversation et surtout de nombreux témoignages sous le couvert de l'anonymat, mais de moins en moins. Là, ce matin, on entendait un ex-collègue nous dire à quel point c'était pénible de travailler avec cette personne. Donc, c'est de ça dont je veux parler au cours de la prochaine heure. Pourquoi ça a fallu que ça se rentre dans les médias pour que le premier ministre, pourtant, qui dit « Moi, là, c'est clair, là, là-dessus, là, je suis non négociable. » Si on est non négociable dans les milieux de travail, puis je suis sûre qu'il est de bonne foi, là, M. Legault, comme d'autres employeurs peuvent être de bonne foi, mais c'est comme une espèce de patate chaude, on dirait, le harcèlement psychologique au travail. On dirait qu'on ne sait pas comment pogner ça. Pourtant, c'est pas compliqué, il me semble. Si on dit on le tolère pas, bien on le tolère pas. Et il y a moyen de mettre aussi des cadres de protection des travailleurs. Surtout qu'aujourd'hui, là, je vous le disais un peu hier, mais ça ressort encore aujourd'hui, un employé sur deux qui est en détresse, hey, t'as pas besoin de te faire écœurer par ton boss en plus ou par un collègue. Là. Des fois, c'est pas le patron, des fois, c'est des collègues. On a un premier cas à vous proposer, puis vous allez voir, c'est un témoignage qui est très éloquent. Yves Saint-Arnaud est un auteur qui travaille dans le domaine des communications depuis de nombreuses années. Il a vécu à deux moments charnières de sa carrière des épisodes importants sur sa santé mentale de harcèlement psychologique. Il a accepté de témoigner ce matin. Bonjour Yves.
Bonjour Isabelle, merci tellement de me recevoir.
Racontez-nous un peu votre premier épisode. Ça remonte à une certaine époque, c'était il y a plus longtemps, mais c'est carrément du harcèlement psychologique que vous avez vécu.
Tout à fait. En fait, les deux événements sont liés à une vingtaine, trentaine d'années de différence. Donc, on parle de la fin des années 80 où j'ai un emploi, où je suis analyste aux ventes pour une entreprise que je nommerai pas, c'est pas important. Ça va vraiment bien. Je suis vraiment dans ma zone de confort, tant et si bien que je me mets à m'illustrer auprès des patrons qui me donnent, sans même savoir si je suis bien formé pour ça, une promotion de gestionnaire. C'est là que tout a déboulé et que l'enfer a commencé.
Qu'est-ce qui a commencé? Qu'est-ce qui a déboulé, Yves?
Bien, j'ai eu le malheur, on va dire ça comme ça, d'avoir comme patronne une femme extrêmement insécure qui, je pense, voyait bien en moi probablement un genre de menace directe sans jamais le mentionner et qui, au lieu de faire ce que les bons entrepreneurs gestionnaires font, c'est de motiver, d'encourager, de féliciter, ça a été plutôt le contraire. Je pense qu'à ce moment-là, cette femme-là s'est mise en tête de me briser et ça a été le début d'une violence psychologique et d'un harcèlement où, au lieu de minimiser les situations, il y a eu des petites erreurs de gestionnaire que j'ai commises au début, j'en étais pas un, et au lieu de me dire « fais attention, c'est très grave ce que tu viens de faire, tu peux perdre ta job pour ça, le savais-tu ça, c'est vraiment en danger, tu risques la probation », alors à 27 ans, à ce moment-là, ce que j'ai commencé à vivre sans le savoir, c'est une descente aux enfers parce que de jour en jour, ma santé physique et psychologique surtout s'amoindrissait sans que je m'en rende compte et ça m'a conduit jusqu'à l'épuisement professionnel sévère qui m'a pris vraiment quelques années à guérir.
Est-ce que c'était... Donnez-moi des exemples de comportements, Yves, que vous avez vécu, de paroles, d'actes, de gestes qui étaient hostiles ou...
Oui.
Ou... pour qu'on saisisse bien le type de harcèlement psychologique là, que vous deviez subir?
Premièrement, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que tu es dans un contexte de travail où ta job, c'est de plaire et de plaire à tes employeurs, c'est-à-dire de justifier leur raison de t'engager. Donc, tu veux être en mode performant, c'est normal, hein? Tu veux faire ton travail. Il est arrivé une situation particulière qui peut résumer toutes les autres. Je commence dans le travail, ça fait 3 semaines que je suis gestionnaire d'une équipe, alors qu'avant, j'étais analyste et bien dans ma peau et dans mon travail. Mm-hmm. On nous donne un document confidentiel qui redéfinissait le travail des employés syndiqués de l'entreprise. C'était confidentiel parce que la nouvelle sortait une semaine plus tard et il fallait pas en parler. Au lieu de nous remettre des documents complets à chacun, ils nous ont donné la Bible et va te faire des photocopies de ça. T'sais. Moi, ce que j'ai fait des photocopies, j'ai reçu un appel, le document est resté sur la photocopieuse. Général, j'en conviens. Heureusement, c'est l'assistante du président qui a trouvé le document. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Ça a pu être fait, attention, oui, c'est important, tu sais, mais ça s'est transformé en « t'as laissé le document sa photocopieuse ». C'est très, très, très grave ce que tu as fait là.
Et t'es un pas bon, là, genre.
T'es un pas bon, tu peux perdre ta job. Écoute, je vais voir ce que je peux faire, mais ça, c'est inacceptable. Mmh. Comment tu réagis quand t'as 27 ans? Tu commences dans une job, la terreur s'empare de toi, le sang se vide de ta face et sans le savoir, tu commences à accumuler des couches de dommages.
Et là, donc c'est une gestionnaire, c'est une patronne, Yves Saint-Arnaud, qui était donc sur votre cas pendant tout le moment où vous avez travaillé, là, c'est ça?
Du début à la fin, entre nous, on parle de ça fait plus de 30 ans et j'ai encore une aversion profonde pour cette personne-là. Je me lève pas le matin pour la détester, mais je lui pardonne. Mais si je la rencontre dans la rue, je sais pas. Je vais vraiment la dévisager.
Comment ça a atteint votre santé mentale? Vous dites ça a joué dans les années qui ont suivi, puis encore aujourd'hui, visiblement, vous vous en souvenez très clairement. Là.
Ah oui.
Ce qu'on comprend, c'est que c'était quelqu'un qui était très manipulateur. Il y avait même de la menace. Bref. Puis c'est souvent le pattern, là, on va en parler avec un spécialiste des ressources humaines, c'est souvent le pattern qu'on reconnaît chez les manipulateurs au travail, un manipulateur qui manipule jusqu'à dénigrer, puis qui renvoie souvent l'image de « ben voyons donc, c'est toi qui as le problème ». Avez-vous aussi vécu ça? C'est-à-dire, ces personnes-là sont tellement pas, soit pas conscientes ou alors font exprès de pas l'être. Ça m'a frappé d'ailleurs dans, je ne sais pas si vous l'avez vu Yves, mais Marie-Ève Proulx, la ministre des missionnaires, et c'est souvent le lot de ces gens qui sont des harceleurs psychologiques. Elle disait, moi je suis, j'ai mes torts, mais je n'ai pas tous les torts. Donc il y a une partie du blâme qu'elle n'accepte pas. Puis elle dit, je suis fonceuse, je suis exigeante, mais je suis d'abord envers moi-même. Ça, on a souvent entendu ça de la part d'un. C'est comme, ils pensent que tout le monde doit avoir leur même rythme, puis c'est pas vrai que tout le monde a le même rythme que tout le monde. Puis des fois, tu peux être patron, puis c'est ton choix, mais ça veut pas dire que tu dois l'imposer aux autres non plus. Est-ce que vous avez vécu ce genre de situation-là où, sous le couvert de l'exigence du travail, parce que ça, le patron, il a le droit, là, en plus, de noter. C'est pas du harcèlement. On a le droit, comme les patrons ont le droit de noter leurs employés d'une certaine façon. Vous êtes consciente de ça?
Dans les deux cas, Isabelle, je vous répondrai que dans les deux cas, il n'y a pas une raison plus acceptable que l'autre. Que ce soit du perfectionnisme ou ce que moi j'appelle de l'insécurité de la part de ton patron qui, quelque part, peut se sentir menacé par tes compétences alors que tu veux juste travailler, donc ça lui appartient. Effectivement, j'ai vécu ça tout à fait. Dans le cas qui me concerne, la première histoire, il y a 30 ans, c'était une personne qui se sentait menacée dans son travail et qui avait décidé de taper sur mon clou. Ce qui s'est passé dans mon cas, c'est sans que je le sache, puis je parle à tous les gens qui le vivent aussi, au début, tu t'en rends plus ou moins compte, mais éventuellement, tu as des symptômes que tu connais pas, tu touches plus de bonheur, tu deviens plus anxieux sans le savoir, puis à un moment donné, après des semaines ou des mois, ton corps t'abandonne. C'est l'épuisement professionnel. Dans mon cas, ça m'a pris 2, même 3 ans avant de m'en remettre. Comme
ouais, ouais, c'est ça. Hein? Le dernier épisode que vous avez vécu, Yves Saint-Arnaud, c'était oui. aussi du harcèlement psychologique dans un autre contexte de travail. Vous me disiez, celui-là, j'ai réagi différemment.
Absolument. Absolument. Ton corps puis ta tête se souviennent toujours d'un épuisement professionnel, barre oblique, dépression, barre oblique, tout ce qui va avec. Donc, tu es toujours sensible et fragile. Tout le restant de ta vie, tu as peur. Ton corps se souvient, tu ne veux plus avoir les mêmes comportements d'acceptation parce que tu te mets en danger le reste de tes jours si tu ne portes pas des gestes, si tu ne fais pas des gestes concrets. L'autre situation est arrivée un peu plus tard, c'est arrivé un peu plus vers la fin des années 2000, où là, j'ai commencé en télé plusieurs années avant, où je me suis retrouvé avec un producteur que je nommerai pas, qui se la coule douce aujourd'hui. Et on est dans un une grosse série de documentaires sur la santé du cœur, entre autres. C'est un gros projet. Et je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam. Je fournis mon premier scénario. Et la première chose qu'il fait devant les médecins, les autres producteurs, c'est de prendre mon scénario avec les doigts comme si c'était une bouse de vache, puis de dire qu'est-ce que c'est ça?
Oh mon Dieu. Ben, ouais.
Ça, c'est pas un scénario. Un scénario, c'est 8,5 par 14 et ça écoute devant tout le monde. Je connais pas ce gars-là. Ça a commencé comme ça, puis ça a continué comme ça, tant et si bien qu'à un moment donné, j'ai dit sais-tu quoi? J'ai prends ton scénario. Je parle de ça plusieurs semaines plus tard. Il m'a retrouvé dans un local où, selon lui, je n'avais pas d'affaires à écrire là. Il m'a vraiment engueulé comme si j'étais une crotte de chien. Alors, je me suis levé, j'ai pris mes documents, j'ai dit, ton document, ta production, ton émission, fais-la toute seule. Moi, je m'en vais, appelle-moi plus. Tu ne vaux pas la peine qu'on s'intéresse à toi. Et ça...
OK, vous avez mis... Ça n'a pas pu dégénérer parce que vous avez mis vos limites. Mais vous avez fait ce que beaucoup de gens font, malheureusement. Puis je suis sûre qu'on va avoir des témoignages dans ce genre-là, Yves Saint-Arnaud, c'est que vous avez quitté l'emploi, finalement.
Bien, tu sais, oui, Isabelle, puis la corrélation que je fais, là, on entend beaucoup parler des féminicides puis des femmes battues, puis tout le monde se dit dans leur tête, mais sors, va-t'en parce que tu vas mourir. Ici, je ne parle pas de violence conjugale, mais la violence, le harcèlement au travail, tu ne mourras pas. Hein? Ton boss, il ne va pas te poignarder, mais il peut te faire très, très mal.
Et pour vous, la seule issue, c'est de quitter, donc?
Oui. Il n'y a aucun emploi au monde, Isabelle. Aucun travail, aucun poste qui justifie que ça te cause un préjudice physique ou mental. Il n'y en a pas.
Mais Yves, pourquoi c'est toujours l'employé qui doit partir? Pourquoi? Ça ne peut pas être le patron qui se fait démissionner, puis pourquoi ça ne peut pas être le collègue qui se fait taper sur les doigts s'il est l'intimidateur harceleur?
Mais je vais parler des patrons plutôt que le collègue, OK? Parce que j'ai vécu plus la relation patron fournisseur ou employé. Première raison, Isabelle, 95% des gens ont peur de perdre leur emploi, sont insécures. Je me plains de mon patron ou je lui dis en pleine face, je vais perdre ma job.
C'est ça.
Deuxième raison, Isabelle, puis les gens qui vont vous appeler après vont vous le dire, on ne fait pas le poids quand on est un peu plus bas dans la hiérarchie. Hein? On est un employé ou un fournisseur, on n'est pas producteur ou VP ou directeur. Donc, moi, je ne ferai pas le poids. Et troisièmement, la perception qu'on a de nos dirigeants, c'est tu vas en parler à ton patron. Quand il va s'enfermer avec son patron, le président, il va dire hey, Saint-Arnaud, il va se plaindre. Mais tu sais quoi, il arrive en retard, c'est un pas bon, fais tout ça pas. La perception qu'on a, c'est qu'ils vont prendre un café ensemble puis ils vont diminuer ce fait-là.
Donc,
ils
ça finit par nuire à la personne qui dénonce, c'est ça que vous dites.
Oui, c'est pour ça que je vous dis sors, attends pas que ça se passe. S'il se passe rien, confronte ton patron, va en parler aux ressources humaines. Si le résultat des courses, c'est que tu te fais retaper dessus par ton patron, tu t'es plaint aux ressources humaines, prends tes choses, va-t'en, ça vaut vraiment plus le coup que d'être malade mentalement et physiquement. Je t'en passe un papier.
Ouais. Yves Saint-Arnaud, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est très éloquent comme témoignage, puis ça crée beaucoup de réactions. Là, j'ai beaucoup de gens là, qui entendent votre témoignage, Yves, puis qui disent « Oh mon Dieu, c'est exactement ce que j'ai vécu ». Puis ce qui est intéressant, c'est que vous nous amenez plein de couches, là, puis des possibilités de questions à notre prochaine invitée, qui est un spécialiste en ressources humaines. Merci beaucoup, Yves. Merci bien. On va s'arrêter ici. Je vous donne nos numéros pour nous joindre. 514-790-9850. Ça, c'est dans la grande région de Montréal. Et pour nous joindre partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Voyez-vous ce que ça fait, là? Tu sais, tu t'en souviens toute ta vie d'employé, là. Et tu te souviens de ce que ça fait à ton corps. Yves nous l'a bien décrit, là. Puis c'est du dénigrement, ça s'installe. Il l'a dit, des fois, on s'en rend pas compte. C'est ça l'insidieux de la situation. Et moi, ça me fascine de voir que ça prend des mois, des années parfois, avant qu'on arrive à dégommer quelqu'un. Puis attendez, souvent, c'est ce qui arrive, c'est à Yves, là. C'est Yves là, qui l'a bien dit. C'est l'employé qui doit s'en aller, sinon ça s'arrête pas. Dans le cas de la ministre démissionnaire, ben là, c'était d'aller dans les médias, voyez-vous. Fait que... Mais pour combien de personnes qui restent et qu'on tolère, qui sont des harceleurs, combien d'autres vont pleurer dans leur coin? Là? C'est pas drôle, c'est pas drôle. Je veux vos témoignages là-dessus. On vous écoute tout de suite après la pause.
Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et nous isole.
La question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce qu'on tolère aussi longtemps, d'après vous, ces cas de harcèlement psychologique au travail? Souvent, on les connaît, les harceleurs. On a de la misère à les dénoncer, on a peur. Et on tolère des situations qui finissent par pourrir puis à saper le moral et la santé mentale de tous ceux qui les entourent. 514-790-9850. On commence avec vous, Roxane. Bonjour. Vous avez été victime, justement, d'une personne comme ça. Comment ça s'est passé pour vous? Rappelez-nous un peu ce qui se passait, là. Quel genre de harcèlement vous deviez subir?
Ben moi, j'ai travaillé dans un bureau de comptable avec quelqu'un qui est arrivé dans mon équipe, qui était un collègue qui était, on va dire, au-dessus de moi dans la chaîne alimentaire, là, mais qui n'était pas mon patron direct,
oui,
mais
oui.
Mm-hmm. Me fournissait quand même de la job, là. Lui, il était tout simplement comptable, si on va dire, au début. Puis là, il a été faire une spécialisation en fiscalité. Moi, je travaillais dans le département de fiscalité. Et puis quand il est parti du département de comptabilité, je me souviens que tous les comptables étaient donc bien contents d'avoir la paix pendant un bout, là, tu sais, là, que lui, il s'en aille.
Mm-hmm.
Fait que nous, on anticipait un peu pendant sa formation, on anticipait un peu son arrivée au sein de notre département. Mais mon patron, lui, était bien optimiste de ça parce que c'était un peu un de ses body-body, là, mm-hmm. avec qui il allait 5 à 7 le jeudi soir. Fait qu'il était bien content que son ami s'en vienne avec nous travailler pour lui. Et puis quand il est arrivé, moi, j'étais quand même jeune, là, dans ce temps-là. J'avais peut-être en début vingtaine. Et puis lui, il avait mi-fin vingtaine. Là. Mm-hmm. On était quand même une jeune équipe. Puis quand il est arrivé, là, je me suis vraiment rendu compte que c'était quelqu'un qui était narcissique, puis toujours des commentaires condescendants à mon égard. Puis je me souviens, je me souviens pas combien de fois, mais je sais que plusieurs fois, j'ai atterri dans le bureau de mon patron en pleurant, là, carrément. Puis c'était pas, je passais pas par quatre chemins, là. C'était à cause de cette personne-là que je pleurais, puis qui m'avait fait la peine, qui avait été méchant avec moi.
On vous disait quoi, Roxane, quand vous pleuriez dans le bureau du patron? Le patron vous disait quoi? Prends sur toi, écoute, mets de l'eau dans ton vin. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Tu sais comment qu'il est, hein? Il peut être un peu rough, tu sais, mais regarde, il est comme ça, puis tu sais.
C'est ça.
T'es jeune, tu sais, tu vas te refaire la couenne, tu sais, c'est un milieu qui est pas facile, puis suck it up, là, tu sais.
Ouais,
c'était
ouais.
Vraiment, lui, il a jamais. Peut-être une fois qu'il a glissé un mot à mon collègue de dire, tu sais, peux-tu essayer d'être un peu plus doux avec elle, mais ça a jamais, il a jamais rien qui a changé jusqu'au jour que, justement, je décide de m'en aller parce que. C'est rendu, je pense, j'étais en retard 3 matins sur 5 au travail. Je n'étais même pas capable de me lever parce que je savais que je m'en allais côtoyer. Puis, il pourrissait ma vie, carrément.
Fait que vous avez quitté vous aussi, ou?
Oui, j'ai quitté le travail. J'ai décidé de m'en aller carrément parce que je ne me voyais pas passer. J'avais eu une opportunité d'avancement peut-être à ce travail-là qui allait nécessiter un bon engagement de ma part pour plusieurs années là-bas. Puis
c'est ça.
Impossible que j'embarque dans cet avancement-là.
Ah ouais.
Passer encore toute ma carrière aux côtés de cet homme-là.
Qui vous aurait nuit, de toute façon, Roxane. Il vous aurait nuit, là. Il aurait nuit à votre carrière du monde, là. Tu sais, des fois, t'as des mauvaises personnes sur ton chemin, là. Puis tu dis...
Exact. Justement, j'avais pas de support de la part de mon patron direct. Fait que c'était pas une... c'était pas une option pour moi d'avancer, d'avoir un avancement de poste là-bas, puis de le côtoyer encore tout le reste de ma carrière. Fait que
Vous êtes partie.
Je suis partie.
Merci, Roxane. Merci de ce témoignage. Daniel est avec nous. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Oui.
Oui, bonjour.
On vous écoute. Okay. Oui.
Oui, moi, j'ai subi du harcèlement psychologique. Je travaillais au fédéral, au ministère de la Justice. J'ai été fonctionnaire pendant 33 ans et j'ai dû arrêter parce que j'avais un patron qui était dans une équipe, j'étais adjointe administrative. Et quand il a quitté, moi, j'étais une personne, une bonne employée, loyale, et il a quitté vite. Donc, ils ont dû mettre une avocate qui était pas gestionnaire, qui avait aucune formation de gestionnaire. Mais elle avait une mauvaise réputation, mais moi je me disais je la prends, c'est à zéro et tout, j'ai bien commencé, mais tout de suite elle m'a traité comme
moins que rien,
me rendre mal à l'aise quasiment tous les jours. Et comme des fois elle aimait pas mon ancien patron, un exemple, elle avait dit ah ben là, il avait pas remis tel laptop avant de partir. Puis là, moi, je réponds, ben oui, il a remis, c'est moi qui ai allé mener ça pour lui, tu sais. Fait que là, toutes des choses comme ça, elle faisait pour me faire réagir. Et elle me dit, des fois, je parlais, elle ne m'écoutait pas. J'étais à la porte de son bureau, elle regardait son ordinateur, elle m'ignorait. Ce n'est juste que des petits exemples. Là.
Mais ce sont tous des bons exemples, Daniel. Merci beaucoup de ce témoignage parce que, et je vous présente Guillaume Desnoyers, chasseur de tête, associé principal chez Desnoyers Ressources et Conseils. Bonjour, Guillaume. C'était spécialiste en ressources humaines. Ce que viennent nous dire Daniel et Roxane, c'est très, et puis plus largement le témoignage de Yves Saint-Arnaud tout à l'heure, Daniel qui vient de dire, elle m'ignorait, elle me parlait pas, c'est toutes des petites choses, a dit Daniel, mais au début, c'est ce que disait Yves, au début, t'es pas sûr que c'est ça, mais tu te fais nier, tu te fais réprimander publiquement. Ça commence souvent comme ça, hein. C'est des petites choses, mais qui finissent par devenir au-delà de l'exigence normale auquel peut s'attendre un patron envers son employé, ça devient quelqu'un qui est sur le cas de quelqu'un d'autre pour le briser.
Bien, c'est sûr que dans la définition même d'harcèlement psychologique, moi, il y a une expression que j'aime bien là, qui dit la conduite hostile. C'est l'attitude hostile envers quelqu'un. Puis ça peut prendre. Des fois, c'est très, très. C'est des gens qui peuvent être excessivement habiles là, qui vont adopter ce genre de conduite-là. Et effectivement, ça part par des petites choses. Je veux dire, au même titre que de ne pas dire bonjour à quelqu'un alors que tu dis bonjour à toutes les autres personnes de l'équipe, il y a un message là-dedans. Là.
Oui, mais le message, c'est quoi? C'est je t'haïs, puis si tu démissionnes pas, je vais te faire la vie dure pendant des années jusqu'à temps que tu te tannes. Est-ce que c'est conscient ou inconscient, ça, Guillaume?
C'est une bonne question. Moi, je pense que la beauté dans tout ça, là, c'est qu'on en parle aujourd'hui, hein, puis qu'on le dénonce, alors qu'il y a 20 ans, ça ne faisait pas partie des choses qui étaient possibles dans les organisations. Puis, mais oui, il y a certainement une partie des gens qui font ça de façon volontaire. J'ose croire que c'est une petite partie. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. On parlait d'insécurité tout à l'heure. Il y a des gens qui peuvent. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce genre de comportement-là, mais qui les expliquent. Je veux dire, qui nous aident à les comprendre. Ça ne les justifie pas. Là, on va faire une nuance importante.
Ouais.
Mais oui, l'insécurité du patron, le manque de confiance, des fois le sentiment de l'imposteur, parfois aussi des mauvais exemples de gestion dans sa carrière. Quelqu'un qui a été géré un peu de cette façon-là, parfois a tendance à reproduire ce genre de façon de se comporter là, tout à fait inacceptable. Mais c'est pas simple. Puis c'est pas simple pour les organisations non plus, parce que tu le disais tout à l'heure, quand une organisation commence à avoir des signaux, parfois, elle se reçoit des signaux contradictoires. C'est qu'il y a toujours des gens qui finissent par se dire « Ben non, il est correct. » Comme disait madame tout à l'heure, il est un peu tough, mais c'est un bon élément pour l'organisation.
Il est de même, qu'est-ce que tu veux.
Ouais, exact. Et là, pour une organisation, c'est difficile de se faire une tête puis de trancher. Puis ça prend aussi, il faut le dire, beaucoup de courage pour adresser ce genre de situation-là. Puis c'est pas simple. Si c'était simple, on ne sera pas en train d'en parler.
Oui, d'ailleurs, on va aller à la pause là-dessus, mais on va continuer d'en parler. Guillaume Desnoyers est avec nous. Vos commentaires sont précieux. Vous pouvez nous appeler au 514-790-9850 et vous faites le 1-866 partout au Québec. 1-866 sans frais, 790-9850. On se fait souvent dire aussi, mets donc de l'eau dans ton vin, là. Qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est vrai, la personne, on la connaît, mais bon, on va supporter ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'employé devrait subir un comportement dénigrant, arrogant, de la part de quelqu'un qui est son supérieur ou puis c'est encore moins justifiable quand c'est un collègue? À la rigueur, quand c'est ton boss, on peut comprendre les allégeances. Hein? On a parlé de ça tout à l'heure. Le club des petits amis, puis l'exemple de la ministre, hein? C'est un peu ça. Le boys club aussi, les boys entre eux. les boys et les girls aussi, tu sais, des fois, aussi dans des milieux plus féminins, ça arrive. En fait, ça peut arriver à n'importe quel moment. Il faut quasiment avoir un radar de ça. C'est malheureux parce que là, jusqu'à maintenant, ce qu'on finit par dire, c'est que la meilleure attitude, c'est de s'enfuir. On peut-tu, au contraire, se débarrasser de ce genre de personnes-là? C'est ça que j'aimerais savoir. Il nous reste une demi-heure pour essayer de clarifier ça tout de suite, tout le monde. Et ça me faisait penser pendant la pause, vous avez peut-être suivi Hell's Kitchen. Hey, un chef dans la cuisine. Je vous parle de lui parce que j'ai Sandra qui m'écrit que son fils de 17 ans travaille dans un restaurant de déjeuner depuis plus d'un an. Puis, des heures là, de 52 semaines. Et là, il y a un nouveau chef. Ils ont reparti ça là, après la pandémie. Puis bref, c'est épouvantable. Son fils de 17 ans, il a mal au ventre avant d'aller travailler. Le chef lui donne des ordres. 15 minutes, coupe-moi une caisse d'échalote au complet. Puis après ça, ça lui crie par-dessus la tête. Bref, il est super stressé. Sandra dit à son fils, lâche-moi ça, ce travail-là. Puis elle a bien raison. Hey, t'es pas... Voyons donc qu'on supporte ça. Mais je vous parlais de Hell's Kitchen parce que Gordon Ramsay, là, que beaucoup de gens suivent, là, moi, là, je te le sortirais par la fenêtre, sincèrement, de la cuisine. Comment ça se fait que tu cries sur le monde comme ça, que le monde regarde ça, trouve ça drôle, trouve ça bon? C'est carrément du harcèlement. Le gars, en plus, il a un couteau dans les mains quand il menace ses employés dans la cuisine. Ça devrait pas être toléré, ce genre d'émission de télévision. C'est une opinion personnelle, mais quand même, je trouve ça épouvantable qu'on glorifie ce genre de personnalité. Il y a Max qui m'écrit, on a élu un à la présidence des États-Unis pendant 4 ans. C'est très vrai. D'ailleurs, ça m'amène à dire que ça a été long aussi avant qu'on en finisse par bannir ses comptes Twitter et autres réseaux sociaux. Ça s'est arrivé aujourd'hui. Donald Trump, parce que c'est de lui que je parle, si vous aviez un petit doute, on vient de finalement bannir ses comptes. Est-ce que ça le dérange? Pas pantoute, il vient de se partir un blog. Fait que voyez-vous, ils ont toujours une voix, ce monde-là, et c'est ça qu'il faut arrêter. C'est de leur donner l'occasion de faire plus de dommages. On a Carole avec nous. Bonjour, Carole. Êtes-vous là, Carole?
Oui, bonjour.
Oui, on vous écoute. Bonjour. Vous avez vécu ça, vous aussi, là? Hein?
Ah, oui, et je l'ai vécu d'une façon assez horrible. Moi, je suis dans le milieu de la santé. J'étais dans le milieu de la santé. J'ai travaillé pendant plus d'une vingtaine d'années au même endroit. Et j'ai été harcelée près de 10 ans par des employés qui étaient dans le même bureau que moi. Les patrons étaient au courant. Moi, j'ai dénoncé parce que après 10 ans, j'ai tout fait dans ce milieu-là.
Ouais. Et les patrons, excusez-moi, Carole, parce que vous dites que les patrons étaient au courant, puis ça m'intéresse. Quelle a été leur réaction?
Les patrons, au début, ont commencé à. Ils trouvaient ça anodin au début. Ouais. Disaient que probablement peut-être une différence caractérielle.
Tu t'entends pas, c'est normal, on peut pas s'entendre avec tout le monde, hein, c'est ça.
Puis moi, j'essayais toujours d'être la bonne personne, de me faire aimer. On veut avoir une bonne ambiance.
Ben oui,
tellement. Puis, à un moment donné, ça a commencé par me traiter de Mère Teresa, parce que je rendais service autour de moi. Je voulais toujours être au-devant des autres. J'essayais de me mettre discrète pour pas que je dérange. Puis là, ça finissait avec des petits papiers, avec des petits mots vraiment têteuses de boss. Puis plein de choses qui étaient pas rapport, puis qui étaient blessantes. Quand je les affrontais, ces personnes-là, ils me disaient que c'était pas de moi, puis de me mêler de mes affaires.
Ah, c'est ça.
Pour finir le plat, c'est qu'à un moment donné, c'est devenu tellement malsain, c'est qu'à un moment donné, le patron a voulu, était au courant de toute la situation, puis quand il a voulu agir, le patron, à ce moment-là, moi, j'ai eu peur. Parce que ces gens-là avaient eu des plaintes de gens qui était pas, parce qu'il faisait pas juste du harcèlement avec moi, il en faisait avec d'autres. Puis, ça me passait tout le temps sur le dos. Mais moi,
j'étais
pas là. Ouais. Fait que tout, qu'est-ce qui se passait, c'était moi. Ah, les murs ont des oreilles. Mais c'était pas ça pantoute.
Oh mon Dieu!
J'étais pas coupable.
Climat de terreur, Carole, finalement. Là. Ouais.
Ah Ça a même atteint au niveau psychologique ou physique. J'étais rendue quand je faisais plus mes photocopies durant qu'eux étaient là. Je faisais des photocopies quand ils allaient à leur pause parce qu'ils m'examinaient. Ils disaient, ah, il y en a qui ont pris du poids, ils ont le cul large.
Ben voyons donc, en plus de la grossophobie. Oh, oui, c'est épouvantable.
Oui, oui, oui. Puis même pendant les heures de dîner, là, j'ai été obligée de tout prouver ça. Hein, parce que moi, ils ont le système de la santé a pris une firme extérieure pour venir enquêter sur les lieux du travail.
Et finalement, la conclusion, en deux mots?
Bon, en deux mots, ben ils m'ont devancé du télétravail à la maison pour me mettre un petit plaster sur me retirer du milieu de travail.
Fait que c'est vous qu'on a sorti et non pas le harceleur. C'est fascinant, pareil. Merci, Carole. Je me tourne à nouveau vers notre invité, Guillaume Desnoyers. Guillaume, on va parler des solutions, mais dans le cas de Carole, situation horrible, puis encore là, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, il me semble que les employés, ils ont pas la couenne bien, bien dure. » Il y a deux, trois personnes qui m'écrivent là, qu'à l'époque, là, ça s'est toujours passé comme ça, puis on le tolérait, puis c'était pas grave, là, t'sais, puis tu ravales tes affaires. C'est sûr qu'on peut penser ça, mais moi, je trouve que des situations de dénigrement, on n'a pas à supporter ça. Puis Carole, ce qu'elle nous décrit, c'est des petites pique tout le temps, tous les jours. On peut pas supporter ça des années, Guillaume. Comment se fait que les patrons, elle dit, les patrons étaient au courant, mais ils ont fini par la sortir, elle?
Ben écoute, Isabelle, c'est la première solution, c'est d'en parler, puis je pense qu'on en fait partie aujourd'hui de cette émission-là, puis ce qui se passe là, dans le débat actuel, c'est sain que ça sorte. Mais je te dirais, là, d'expérience, Isabelle, c'est pire quand c'est entre employés que quand c'est avec un patron.
Ah ouais,
C'est plus difficile à détecter. C'est souvent un groupe d'employés, des fois, qui fait ça. Donc, les gens se protègent entre eux autres. C'est vraiment, honnêtement, là, c'est vraiment un écran de fumée qui est très, très difficile à dissiper pour un employeur. Parce que même un employeur qui est bien intentionné, qui a le courage d'affronter les situations, va avoir beaucoup de difficultés à se dépêtrer là-dedans. Mais il faut se le dire encore aujourd'hui, Isabelle, c'est plus facile de nier le problème que d'essayer de le régler.
Oui, tu voulais parler de solutions. Il y a une couple de personnes qui me parlent d'une plateforme Alias, là, d'un groupe. En fait, c'est une ligne, je ne sais pas si tu connais ça, c'est une ligne de dénonciation, ou en tout cas, d'après ce que je comprends, là, où on peut aller dénoncer sans avoir peur pour la suite des choses. Parce que ce que je comprends, il y a une omerta parce que les gens craignent les représailles.
En tout cas, je ne crois pas vraiment dans la dénonciation anonyme. Moi, je pense que les organisations, puis il faut se le dire, là, depuis plusieurs années, il y a des lois qui encadrent le harcèlement psychologique. Puis ça, c'était le début de quelque chose qui est en train de s'améliorer. Ça prend du temps, effectivement, mais je pense que les organisations, il faut qu'ils fassent face à la situation. Premièrement, là, c'est d'avoir une politique, puis pas juste sur le harcèlement psychologique, sur l'incivilité en milieu de travail, de la communiquer, de faire de la sensibilisation auprès des gestionnaires, puis d'avoir des mécanismes qui sont efficace, confidentiel et qui donne fin à l'impunité dont certains, évidemment, si les harceleurs poursuivent des comportements harcelants pendant 20 ans, en quelque part, c'est parce que l'organisation puis la société réussissent pas à le
C'est parce qu'on parle des deux côtés de la bouche, Guillaume. Tu sais, quand même au gouvernement, t'as un premier ministre qui dit, hey, pour moi là, c'est non négociable cette affaire-là. C'est pas vrai que je vais tolérer ça. Puis en même temps, on voit bien que quand il y a une ministre, puis je comprends que la patate chose aussi, c'était une autre ministre qui fait pas l'affaire, puis c'est encore une femme, puis là, ben la parité déjà fragile à la CAQ, là, ça va déséquilibrer tout ça. Donc, je comprends que ça a pu nuire un peu à la prise de décision plus rapide, mais on peut pas laisser pourrir des situations comme ça. Le gouvernement doit montrer l'exemple.
Ben quand on voit quand il y a des symptômes comme ça, faut dire que c'est la pointe de l'iceberg, hein? Parce que bien souvent quand on se met à gratter ce genre d'histoire-là, on en trouve plein d'autres. Et c'est malheureux. Puis je vous dirais le principal problème des organisations, c'est le courage. C'est des situations qui sont difficiles. On va brasser des choses qui sentent pas bon pendant longtemps. Mais je pense que aujourd'hui on est rendu là en tant que société. Puis comme je te dis, la première chose c'est d'en parler. Tu sais, aujourd'hui là, il y a bien des gens qui voient les comportements qui sont reprochés à Mme Proulx et qui se disent « Oups, j'ai tendance à faire ça, puis peut-être qu'il faut que je fasse attention. » Mais le problème fondamental derrière de ça aussi, c'est que les harceleurs, bien souvent, là, ils s'en rendent pas compte à quel point ils sont harcelants. Tu sais, c'est pathétique, tu vas dire, là, mais oui, il y a bien des gens aujourd'hui là, qui le niveau de conscience d'elles-mêmes n'est pas assez développé pour faire d'eux des bons gestionnaires. Puis il y en a qui sont dans le déni, oui, Mais il y en a d'autres qui apprennent parfois à la dure qu'il y a des choses qu'ils peuvent pas faire dans la vie. C'est aussi bête que ça. Là. On peut penser, là, si on prend l'histoire de Mme Proulx, là, c'est quelqu'un qui a une maîtrise en travail social. Là. En quelque part, elle a certaines connaissances, mais de toute évidence, au niveau du savoir-être et du savoir-faire, ça marche pas.
L'intelligence ça, émotionnelle, on n'en parle pas assez, l'intelligence émotionnelle. Mais oui, complètement.
De toute évidence, mais ça part, la solution à part par les organisations. Elle est partie de la CNSST qui a mis des règles en place. Mais évidemment, après ça, faut que ça suive. Faut que les organisations laissent la chance aux gens qui sont victimes de s'exprimer, fassent des enquêtes. Mais c'est beaucoup de courage que ça demande aux organisations. Ouais. Il y en a certaines qui sont excellentes, on n'en parle pas, hein, mais il y a des organisations qui font leur job.
Ouais. Mais puis on oublie aussi, Guillaume, tu parles des grandes organisations. Déjà là, souvent, tu as des bureaux d'aide aux employés, tu as des programmes, tu as un service de ressources humaines où peut-être tu peux trouver une oreille attentive, mais il y a beaucoup de PME. La force vivante du travail au Québec, ça se passe surtout dans les PME. On a tendance à l'oublier. Là. Puis dans les PME, là, tu sais, tu as 10 employés et moins. As-tu le temps d'avoir un bureau de RH puis d'appeler une entreprise privée pour venir faire une enquête interne? Et non, ça se fait pas. Fait que là, c'est vie avec ça. Là. Puis t'es pas content, bien écoute, il y en a d'autres employés. T'sais. C'est sûr qu'en même temps, il y a des enjeux de main-d'œuvre au Québec. Fait que peut-être que les boss vont pas avoir le choix que de dire OK, si on a un problème, il faut qu'on le règle. Guillaume, merci. Toujours super intéressant. Guillaume Desnoyers, chasseur de tête, associé principal chez Desnoyers, Ressources et Conseils. Merci, Guillaume.
Merci, Isabelle.
On s'arrête ici, très courte pause. On revient, plein de gens là, qui viennent intervenir. C'est un sujet qui vous touche beaucoup. J'ai tellement de courriels aussi, je pourrais vous lire ça jusqu'à une heure. On revient tout de suite après. Restez là, tout le monde. Parler avec l'équipe là, pendant la pause, puis on est rendu à dire c'est plus que de tolérer là, des comportements de harcèlement de la part de gens qui sont manipulateurs, narcissiques, condescendants, arrogants. Il y a Étienne qui me dit qu'est-ce qu'on fait quand c'est la personne qui gère, qui est supposée gérer l'incivilité et le harcèlement, qui est le harceleur. Là, ça va pas bien, effectivement. Mais c'est pas juste les tolérer, c'est qu'en ce moment, on voit qu'on dirait que le système, les milieux de travail, les patrons, les protègent. Il y a comme une protection de ces gens-là qui font beaucoup de dommages. Puis après, on va dire, oh mon Dieu, un employé sur deux qui va pas bien mentalement, comment se fait que les Québécois sont sur les pilules? Bien, tout est dans tout, je vous le dis souvent. Mais si on tolère puis qu'on protège des harceleurs, il faut pas s'étonner qu'ils fassent du dégât puis que le monde soit chez eux, à la maison, en arrêt de travail pour burn-out. Ça va avec, c'est malheureux, mais il va vraiment falloir avoir une prise de conscience là-dessus. Jacinthe, bonjour, vous l'avez vécu vous aussi, ça?
Oui, j'allais vécu il y a plusieurs années. J'ai travaillé 32 ans dans une grande entreprise de vente au détail. J'étais au centre de distribution, en fait, après plusieurs années dans un bureau. Mm-hmm. J'ai dû changer pour des raisons personnelles. Et quand je suis arrivée, disons, dans un poste d'opérateur, ce qui correspondait à quelque chose de complètement nouveau, j'y suis arrivée parce que j'avais déjà beaucoup d'ancienneté pour l'entreprise et les employés sur place ont vraiment pas accepté. On me disait t'as ouvert une porte, ça se faisait pas avant, ça prenait de l'expérience. On m'appelait même chez moi pour m'engueuler en fait là les employés parce que j'ai respecté la façon de faire de l'entreprise. J'ai vraiment monté graduellement au centre de distribution, mais en fait, moi, ma réaction a été différente de vos appels précédents parce que j'ai un tempérament plutôt caractériel, donc je me suis rebellée et j'ai vraiment...
Vous avez tenu votre bout? Vous avez tenu votre bout?
Oui, vraiment.
Ça a porté fruit, Jacinthe?
Oui, ça a porté fruit. Il y a même mon superviseur direct qui approuvait les autres employés en disant que c'était pas ma place, que j'avais pas d'affaires là. Et je l'ai confronté devant tous les employés. Vraiment, là, en bon français, à s'engueuler, devant tout le monde. Heureusement, cette entreprise-là a quand même des bonnes normes au niveau du soutien aux employés. La direction s'est rendu compte de ce qui se passait.
OK, il a fallu avoir une confrontation publique pour que la direction s'en rende compte puis agisse, c'est ça, là, finalement.
Oui, okay. C'est ça, c'est ça.
Puis, merci. Finalement, mm-hmm. Oui, bien, allez-y, puis finalement.
Puis finalement, c'est sûr que les employés ont continué de me bouder, entre guillemets.
Je pense que
les gens ont peur, mais il y a toujours les normes du travail.
Ouais.
La plupart des entreprises ont très peur des normes du travail. Donc, je pense que c'est une option aussi à
considérer.
À utiliser.
Mais merci, ouais. Merci de votre témoignage. Puis c'est important, puis c'est super intéressant parce que Jacinthe nous amène aux normes du travail. Puis justement, on a Maître Éric Lallier qui est avec nous. Il est associé en droit du travail, avocat, bien sûr, chez Norton Rose Fulbright. Bonjour, Maître Lallier. Les normes du travail, là. Bon, Jacinthe nous dit qu'il faut peut-être y penser plus souvent. Est-ce que ça peut faire une différence, effectivement?
Oui. En fait, la réponse courte, c'est oui, Isabelle. Mais je dirais que c'est en deux étapes. Hein. Puis la loi est très claire sur ça. Normalement, on doit saisir l'employeur parce que ce qu'on ne sait pas, on ne peut pas intervenir pour le faire cesser, pour qu'une enquête ait lieu puis qu'on puisse valider effectivement s'il y a du harcèlement psychologique. Mais en dernier ressort, si l'intervention n'a pas porté fruit, ou encore, justement, là, vous parliez tantôt d'une personne qui aurait une proximité trop grande avec la gestion des plaintes et que ça ne fonctionnerait pas, bien,
ouais.
Là, on peut s'adresser effectivement à la Commission des normes du travail qui elle, a des pouvoirs d'intervention, des pouvoirs d'enquête, puis ultimement même au tribunal, qui pourra sanctionner le comportement de l'employeur et de ses représentants.
Ouais. Il y a des gens qui sont bons quand même pour aussi, après, se dire... On peut les confronter. Mettons, un patron va confronter un collègue qui a été l'objet d'une plainte pour harcèlement psychologique ou harcèlement. Cette personne-là manipulatrice peut facilement manipuler le patron aussi. Donc, comment ça gère ce genre de situation où le patron confronte l'employé en question? L'employé dit, ah, écoute, je suis désolé, là, je pense que c'est une mauvaise, c'est un quiproquo, on s'est peut-être pas bien compris. Non, écoute, c'est pas répété comme situation parce que dans harcèlement, il faut que ce soit une situation répétée, hein, on va le rappeler, Maître Lallier. Mais quand finalement, tout le monde tombe sous le joug de cette personne qui manipule bien, là, qui sait bien revirer le monde pour les mettre de son bord?
Ben, en fait, un employeur responsable doit tenter de faire la lumière et justement évacuer cet aspect-là s'il est en mesure de le percevoir. Là. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mettent beaucoup d'énergie justement pour éviter qu'une situation comme celle-là se produise. Est-ce que c'est parfait l'encadrement en matière d'harcèlement psychologique? Certainement pas. C'est une suite de zones grises. Hein. Le harcèlement psychologique, c'est souvent une suite de perceptions, pas mal de subjectivité là-dedans. Alors, tu sais, c'est pas toujours simple, pas toujours facile. Mais comme je le dis, une entreprise qui est responsable, qui prend ses obligations au sérieux, va faire un processus diligent, puis va tenter d'aller voir véritablement ce qui se passe dans l'histoire qui est portée à son attention.
L'histoire de la ministre, là, Marie-Ève Proulx, est quand même assez incroyable parce que souvent, bon, on comprend, une personne qui se plaint toute seule, qui est l'objet seul d'un harceleur, pas évident, là. Mais quand tu as 14 personnes qui sont parties en peu de temps dans l'entourage d'une ex-ministre, puis que là, elle est restée députée, puis il semble que François Legault ait dit... on me dit que la situation est quand même relativement bonne dans son bureau de comté. Moi, je m'inquiète pour le monde qui va rester autour. Ça a l'air qu'elle va quand même continuer de gérer une équipe d'attachés politiques. J'ai une situation relativement bonne. C'est pas une situation très le fun, ça. Tu sais, c'est pas « Ah, ça se passe super bien », c'est relativement bon. Il me semble qu'il y a comme des lumières rouges qui sont toujours allumées.
Oui. Ben, en matière d'harcèlement psychologique, on parle souvent, on utilise souvent le mot « diagnostic hein. ». Faire un diagnostic, comprendre ce qui se passe. Puis là, ben, sans évidemment commenter le cas précis, là, mais le fait que plusieurs personnes se manifestent, plusieurs personnes quittent l'organisation, c'est souvent un des principaux symptômes qui démontre qu'il y a peut-être un enjeu sous-jacent. Alors, c'est certain que comme organisation, comme entreprise, que ce soit au niveau public ou privé, quand on voit un symptôme comme celui-là, ben c'est peut-être le temps de faire des vérifications additionnelles pour aller voir s'il n'y a pas une maladie sous-jacente.
Puis je pense que, oui, voilà, puis ce qu'il faut dire, en tout cas, Maître Lallier, en terminant, c'est ne pas supporter, ne pas tolérer, ne pas protéger des harceleurs.
La loi est très claire là-dessus.
La loi est claire là-dessus, vous dites en plus.
Il faut intervenir, oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Maître Éric Lallier, avocat associé en droit du travail chez Norton Rose Fulbright. On t'arrête ici, on va parler de déviance sexuelle après la pause.